Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Une erreur de calcul des fonds nécessaires pour le JobKeeper en Australie. Le gouvernement a en effet surestimé le besoin pour la mesure. L'opposition demande au gouvernement de réinvestir ses fonds. La crainte à Hong Kong avec de nouvelles lois chinoises présentées devant le Parlement. Et la mort d'une icône de la musique africaine, Morikante. On débute donc avec la politique et en Australie, donc l'opposition fédérale qui exhorte le gouvernement à faire toute la lumière sur les révélations que le programme JobKeeper coûte 60 milliards de dollars de moins que prévu. Environ 1000 entreprises ont commis une erreur importante en signalant le nombre d'employés qui avaient besoin d'aide dans leur rang. En tant que tel, le programme ne devrait donc désormais aider que 3,5 millions de personnes et non les 6,5 millions annoncés et ne coûtera que 70 milliards de dollars et non pas 130 milliards de dollars. Le trésorier Josh Frydenberg dit que c'est un bon résultat car cela signifie que la facture de la récupération de la crise du coronavirus sera donc réduite. Mais au lieu de simplement économiser l'argent, Anthony Albanese, le gouvernement devrait essayer de déterminer dans quelle mesure il peut étendre les mesures d'aide au coronavirus avec les 60 milliards de dollars supplémentaires. On l'écoute.
What we should have is the calculation, if the government can actually do it competently, of what the cost would be, for example, the impact on casuals who've missed out, the impact on other sectors who've missed out, what should happen to areas like the arts and entertainment sector in terms of a specific package to provide support to those workers.
Voilà donc Anthony Albanese. À Hong Kong, c'est un projet qui fait peur à l'opposition. En effet, le gouvernement de Pékin en Chine a donc proposé un projet de loi sur la sécurité nationale. Et dans cette loi, le gouvernement entend interdire la trahison, la sécession ou encore la subversion. En clair, c'est un projet de loi pour interdire les actions de l'opposition après des mois de contestation dans les rues l'année dernière. On écoute Fernando Cheng, il est porte-parole de l'opposition à Hong Kong.
Toute la ville en parle. En ce moment, à cause de la pandémie de Covid, il y a des restrictions sur les rassemblements publics. La police a d'ailleurs refusé des demandes de manifestation ces dernières semaines. De fait, la veillée aux chandelles organisée tous les ans le 4 juin en mémoire des victimes de la place Tiananmen a été refusée. C'est donc très compliqué. Et si ce genre d'activité est organisé, la police intervient, disperse les gens et n'hésite pas à se montrer très brutale. Nous allons donc devoir attendre et voir comment cela évolue. Des organisations locales parlent déjà de manifester ce dimanche, mais la grande organisation qui rassemble habituellement des foules énormes, le Front civil des droits de l'homme, n'a pas appelé à un grand rassemblement, pas encore. Ils ont quand même dit qu'ils appelleraient à agir. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir à la pandémie et ils doivent aussi évaluer les risques d'appeler à une réunion publique alors que les rassemblements sont réduits à un maximum de 8 personnes.
Voilà donc Fernando Cheng, le porte-parole de l'opposition à Hong Kong. Le bilan des victimes d'un accident d'avion de Pakistan International Airlines dans la plus grande ville du pays, Karachi, s'élève désormais à 24. On ne sait pas immédiatement si ce chiffre inclut les pertes sur le terrain. Le vol PK8303, un Airbus A320 volant de Lahore à Karachi, s'est écrasé dans un quartier résidentiel surpeuplé et ce à l'approche de l'aéroport. Il faisait sa deuxième tentative d'atterrissage. 99 personnes étaient à bord de l'avion, 91 passagers et 8 membres d'équipage. Le président de la compagnie aérienne, Arsad Malik, a déclaré qu'il pourrait prendre 2 à 3 jours pour retrouver tous les corps. On l'écoute.
It could take 2 to 3 days to complete the whole operation. You all know what I am talking about. At the moment, my teams are in Civil Hospital and Jinnah Postgraduate Medical Center. We will keep track of each and every one of the victims in the accident. And we will have contact with all the relatives of the victims by tonight, and we are available for any service.
Voilà donc pour cet accident d'avion. Une infirmière qui a continué à travailler dans une maison de soins des personnes âgées au Queensland, malgré les symptômes du Covid-19, sera renvoyée à l'organisme santé de l'État pour violation présumée des instructions contre le directeur de la santé du Queensland. L'infirmière a été suspendue alors qu'une enquête est en cours et maintenant isolée à domicile. Elle travaillait au North Rockhampton Nursing Center. Les premiers tests pour tous les personnels et les résidents potentiels exposés au centre sont revenus négatifs. Une deuxième série de tests a également été effectuée et tous ceux qui sont revenus, tous ces tests sont déjà jusqu'à présent également revenus négatifs. Une équipe d'intervention rapide de 26 infirmières a été envoyée dans l'établissement pour soigner le personnel et les résidents touchés qui sont désormais confrontés à l'isolement et à des tests continus. Direction les États-Unis. Maintenant, le président américain Donald Trump appelle les gouvernements des États à rouvrir les lieux de culte ce week-end et demande aux gens de passer outre si les églises ne rouvriront pas avant le long week-end du Memorial Day aux États-Unis. Donc Donald Trump affirme que les lieux de culte sont essentiels. Il dit que les chefs religieux veilleront à ce que les paroissiens restent en sécurité. On l'écoute.
These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray.
Voilà donc le président américain Donald Trump. 13h07 aux États-Unis encore. Eh bien, c'est un proche de Donald Trump qui prend la tête du renseignement américain. La nomination de John Ratcliffe a été faite hier, confirmée par le Sénat, 49 voix contre 44. Et c'est inhabituel car ce poste clé est généralement attribué à une personne apolitique. Or, John Ratcliffe est un fervent partisan du président. Son portrait avec Anne Corpet.
Tout ce qui intéresse John Ratcliffe, c'est de satisfaire le président. Il se fiche absolument de la vérité, a pesté un sénateur démocrate pendant son audition. L'opposition dénonce une nomination purement politique et l'absence de compétences réelles du candidat choisi par Donald Trump. John Ratcliffe siège depuis début 2019 à la commission du renseignement de la Chambre et c'est la seule ligne de son CV en rapport avec le poste qu'il va occuper. Les sénateurs républicains avaient d'ailleurs refusé de le soutenir lorsque Donald Trump avait voulu le nommer à ce même poste en 2019. Il avait à l'époque retiré sa candidature. John Ratcliffe s'est illustré pendant la procédure de destitution engagée par les démocrates par son soutien inconditionnel au président. Il a contribué à véhiculer dans les médias la thèse d'un complot mené contre Donald Trump par son prédécesseur et a évoqué la possibilité de poursuites criminelles contre Barack Obama. Mais il s'est engagé pendant son audition à rester impartiale. Je livrerai la vérité sans fard. Elle ne sera ombragée par personne, a-t-il assuré.
Et c'était Anne Corpet depuis Washington pour RFI. Et aux États-Unis toujours, eh bien, le pays a exprimé son souhait de sortir du traité international Open Sky, ciel ouvert en français, signé en 1992. C'est un traité qui permet à chaque pays de vérifier les activités aériennes et militaires des autres pays et regroupe 35 pays. La Russie et les États-Unis s'accusent mutuellement de ne pas respecter cet accord. 10 pays de l'Union européenne font partie de cette décision. L'OTAN affirme également que la Russie viole fréquemment le traité. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré cette semaine que son pays donc, se retirerait du traité en raison des violations russes, ce qui rend impossible pour les États-Unis de rester dans ce traité. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'organisation avait tenté à plusieurs reprises d'amener la Russie à se confirmer ou se conforter dans ce traité. On l'écoute.
Russia has for many years imposed flight restrictions inconsistent with the treaty, including flight limitations over Kaliningrad and restricting flights in Russia near its border with Georgia. Russia's ongoing selective implementation has undermined the Open Skies Treaty. Over many years, including at successive NATO summits, allies have called on Russia to return to full compliance.
13h10, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, direction la France maintenant. Alors que l'épidémie de coronavirus semble être en déclin, on croise les doigts, hein, 74 décès dans les 24 dernières heures, eh bien le gouvernement a annoncé la tenue du second tour des élections municipales, second tour donc pour le 28 juin. Et c'est important, au-delà de l'acte civique, de nombreuses communes n'ont pas de conseil municipal. Et or, selon la loi, sans conseil municipal, rien ou presque ne peut être fait dans les villes. Les explications avec Marine de la Moissonnière.
Le Premier ministre l'a redit, depuis le début de cette crise, il passe son temps à choisir entre des options qui présentent toutes des inconvénients. Alors pourquoi cette date du 28 juin? Eh bien, Édouard Philippe l'a justifié. Appeler les Français aux urnes pour un seul tour, ça réduit les risques sanitaires. On ne sait pas de toute façon comment va évoluer la pandémie à l'avenir. Or, les conseils municipaux, au travers des commandes publiques, jouent un rôle essentiel dans la relance économique. Édouard Philippe ne veut donc pas attendre.
Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits.
Mais la tenue du scrutin est assortie de conditions. Dans 15 jours, la situation sanitaire sera réévaluée et l'élection pourra être repoussée si besoin. Ensuite, des mesures concrètes vont être mises en place, qu'a détaillé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Chaque électeur devra porter un masque de protection. Ils devront également pouvoir disposer de gel hydroalcoolique ou d'un accès à un point d'eau pour se laver les mains. Les membres du bureau de vote devront porter un masque chirurgical tout au long de l'opération de vote.
Quant à la campagne, elle se fera essentiellement en ligne et dans les médias. Sur tous ces points, les maires et les partis seront consultés dès la semaine prochaine. Si le gouvernement assume seul le choix de la date du scrutin, il entend bien partager la responsabilité de sa bonne tenue avec le reste de la classe politique.
Un reportage de Marine de la Moissonnière pour RFI. Et puis pour conclure ce journal, la disparition d'une grande personnalité de la musique africaine, Mori Kanté. Le chanteur phare guinéen est mort à l'âge de 70 ans hier d'une longue maladie. Son titre Yeke Yeke avait fait le tour du monde à l'époque. La réaction de Ben Signor, spécialiste de la musique du monde.
Mori Kanté, ça a été déjà un artiste très important sur les scènes de musique du monde, puisque en fait c'est le tout premier griot qui réussit à faire un tube international. Son tube Yeke Yeke a été revisité pour l'album qu'il a sorti chez Barclay en 1987. Et c'est cet album-là, enfin en tout cas ce titre-là, qui est devenu le premier grand titre dans les charts internationales et qui a été un peu le moteur de musique du monde. Avant Yeke Yeke, on ne parlait pas de musique du monde.
Voilà, et à noter que l'on rend hommage à Mori Kanté tout de suite après ce journal. Coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 27 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 15. Hobart, 15. Canberra, 13 degrés. Sydney, 18. Brisbane, 19. Cairns, 21. Et Darwin, 26 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Donc, une erreur de calcul des fonds nécessaires pour le JobKeeper australien. Le gouvernement a surestimé le besoin pour la mesure. L'opposition demande au gouvernement de réinvestir les fonds. On l'a entendu dans ce journal, la crainte à Hong Kong sur de nouvelles lois chinoises présentées devant le Parlement. Et on vient de l'entendre, la mort d'une icône de la musique africaine, Mori Kanté.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.